ou pas?
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Institut d'astrophysique pour cette deuxième conférence de l'année scolaire 2024-2025. Oui, mon micro est allumé. Je ne suis pas bonne avec ces trucs-là, mais là, j'y ai pensé. Bienvenue à tous. Bienvenue à ceux qui nous suivent sur YouTube. Ce soir, j'ai d'abord les excuses à vous transmettre de la part de notre directeur Patrick Peter, terrassé par la grippe. Il comptait bien être là, en particulier pour, en hommage à tout le travail que Jean-Charles Cuyandre a fait sur Euclide et puis pour soutenir le projet Euclide qui occupe un certain nombre d'entre nous dans cette maison, y compris le chercheur principal d'Euclide, Yannick Mélier, depuis pas mal d'années. Et bon, malheureusement, il est au fond de son lit, donc il ne sera pas là. Ensuite, j'ai à vous annoncer les conférences à venir. Donc, le 5 novembre, nous aurons une conférence sur les exocomètes par Alain Lecavelier, qui est un chercheur à l'IAP. Le 3 décembre, nous aurons Paola Di Matteo dans le cadre d'une grande conférence internationale organisée toute cette semaine-là à l'IAP, qui viendra nous parler. J'ai pas de titre définitif, mais elle travaille sur des données sur notre galaxie, en particulier des données du satellite Gaïa. Et puis, le 7 janvier, nous aurons James Lequeux. James Lequeux est un astronome de l'Observatoire de Paris, retraité depuis fort longtemps, qui a profité de sa retraite pour écrire un nombre incalculable de livres. On a vu récemment ces livres étalés sur une table, c'est phénoménal. Et en particulier, il s'est beaucoup intéressé à l'histoire de l'astronomie. Et donc, le 7 janvier, il nous parlera de l'astronome Lacaille, découvreur du ciel austral, puisque avant Lacaille, 18e siècle, si je ne m'abuse, on ne savait pas grand-chose sur les constellations et les étoiles, et encore moins les galaxies du ciel austral. Voilà, ce soir nous accueillons Jean-Charles Cuyandre, que je remercie d'être ici. Donc Jean-Charles a fait sa thèse avec Yannick Mélier, dont je parlais au sujet d'Euclide, Bernard Faure et aussi un peu James Lequeux, qui l'a pas mal influencé. Il a fait cette thèse avec comme condition de passer un an au CFH. Le CFH, c'est le télescope Canada-France-Hawaï sur l'île d'Hawaï. Il s'y est tellement plu qu'il y a passé 20 ans. Donc, après 20 ans... Oula, il y avait un problème de micro, peut-être, mais bon. Après 20 ans au CFH, il a fini par rentrer en France. Mais là-bas, il s'est occupé beaucoup d'imagerie à grand champ, en particulier pour avoir une belle résolution spatiale et voir des détails fins, donc fabriquer des belles images. Et il me racontait que les belles images du ciel, ça lui avait déjà plu dès l'enfance. Et c'est peut-être ce qui l'a poussé à faire de l'astronomie après. Et donc, il a dédié une bonne partie de sa carrière à faire des grandes images, des instruments d'imagerie à grand champ, et puis du traitement d'images aussi pour essayer d'extraire tout ce qu'on peut des images. Et moi-même, j'ai la chance de travailler sur des images qui ont été traitées par des logiciels développés par Jean-Charles, et c'est très précieux, en particulier pour les objets à faible brillance de surface, qui sont donc très faibles et très difficiles à détecter. Et puis, il aime les belles images, m'a-t-il dit. Donc, vous avez quelques exemples de belles images ici, prises par Euclide, et vous pourrez les regarder un peu plus en détail en sortant. Donc vous avez la nébuleuse de la tête de cheval ici, qui est bien connue. Vous avez ici un amas globulaire. Ah non, c'est une galaxie irrégulière, pardon, j'ai dit des bêtises. La galaxie irrégulière NGC 6822. Ici, vous avez l'amas de Persée, sur lequel on a déjà publié plusieurs articles. Ici, vous avez la galaxie spirale IC 342. Et puis la nébuleuse Messier 78, vue par Euclide aussi. Donc ce sont quelques images prises par Euclide. Évidemment, il y en a déjà beaucoup, beaucoup plus, puisque Euclide a été lancé le 1er juillet 2023, donc ça fait déjà quand même plus d'un an. Voilà, donc ensuite, Jean-Charles est revenu en France il y a environ 10 ans et il a travaillé pour Euclide essentiellement, donc à la fois la conception du relevé d'Euclide et aussi l'organisation des compléments, des observations complémentaires au sol qui sont nécessaires pour parce que Euclide tout seul ne peut pas tout faire et il y a des instruments au sol qui vont compléter les observations d'Euclide. Donc voilà, merci beaucoup Jean-Charles, on t'écoute.
Merci Florence. Ok, le son est bon. Donc merci de m'accueillir ici pour vous parler d'Euclide, des images, de toute l'expérience qui nous a mené à voir ces images derrière moi. Donc Tancred nous a positionné ça derrière. Donc ça vous donne déjà un avant-goût sur ce que je vais vous montrer à l'écran. Donc le thème, c'est les premiers résultats. Et en fait, quand je préparais mes slides hier, je dis bah, c'est assez ouvert comme proposition de résultats. Donc je n'ai pas juste parlé de résultats scientifiques, il y en aura. Mais je parlais des résultats comme les images ou les résultats de ce qu'on a appris de construire cette mission. Et j'aime quand même donner en général du contexte, donc je vais pas mal vous expliquer comment il marche le télescope. Donc comme ça, vous comprendrez un peu mieux d'où viennent vraiment ces images. Donc tout d'abord, contexte. Donc l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui mène donc ce projet Euclide, c'est leur télescope. Donc, ils ont toute une flottille de télescopes divers et variés qui couvrent l'ensemble du spectre électromagnétique. Et donc, en fonction du thème scientifique que vous voulez explorer, vous allez répondre à des appels de l'Agence spatiale européenne pour obtenir un financement qui construira vos télescopes, les instruments et le support pendant les années nécessaires pour conduire la mission. Et donc, Euclide, vous le voyez alors, ici, Euclide. Il tombe juste à la frontière entre le domaine optique et proche infrarouge. Et donc gardez ça à l'esprit quand on regarde tout ce qu'on fait avec Euclide, on regarde vraiment à travers un petit segment du spectre électromagnétique, sachant qu'on ne fait dans l'espace que ce qu'on peut faire dans l'espace, parce que ça coûte très cher de faire de l'astronomie spatiale. Donc c'est pour ça que Florence mentionnait qu'on a des compléments sol qui m'ont pas mal occupé ces 10 dernières années, parce que la partie sol qui est nécessaire à la fonction scientifique fondamentale de la mission Euclide n'ont pas besoin d'être faites depuis l'espace. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà, Euclide, voilà à quoi ressemble le télescope. Donc ça, c'est une slide de l'ESA qui essaie de donner le concept de ce qui se cache derrière. Donc c'est un télescope qui a été conçu littéralement du premier jusqu'à la fin, jusqu'à la programmation de la mission que nous sommes en cours de réalisation pour vraiment mieux répondre à la problématique de l'univers sombre. Donc l'univers sombre, c'est l'énergie noire, c'est cette découverte en 1998 qui est toujours le plus grand mystère à ce jour de la physique contemporaine, au point où de nombreuses aventures internationales essaient de répondre au mieux possible, et on en est donc à contraindre des modèles cosmologiques à l'aide de divers paramètres. Donc vous avez différentes approches, et Euclide est la première mission spatiale qui vous donne un signal vraiment pur, qui va vous permettre de faire des mesures inégalées jusqu'à présent. Voilà. En résumé, c'est la motivation d'Euclide. Alors, ce qui se cherche derrière, forcément, vous avez une armée de scientifiques. Donc, la collaboration scientifique s'appelle l'Euclide Consortium. Vous verrez le logo sur les images derrière. Là. C'est 17 pays, principalement en Europe. Mais on a également les Canadiens, les Américains et les Canadiens, et les Japonais aussi, également. Plus de 300 laboratoires, plus de 6600 membres dans cette grande collaboration. Mais ce n'est pas juste la science qui est menée par ce groupe, c'est également la préparation de la mission, comme moi, qui ai préparé le relevé spatial. Vous avez la gestion des données, le traitement des données. Je parlais d'une facette ce soir, uniquement pour un programme un peu annexe qui sont les premières images, mais il y a toute une gestion du programme qui va s'étendre sur 6 ans. Et donc, comme vous regardez l'ensemble des contributions de ces divers pays, la France clairement domine par ses compétences. Il y a tout un aspect d'héritage, d'activités qui sont liées à ce que la communauté française a mené depuis de nombreuses années. Et donc, ce n'est pas une surprise donc, que notre mission lead soit effectivement Yannick Mélier, comme l'indiquait Florence. Voilà, donc là, j'ai fait un peu mis quelques logos, c'est assez impressionnant, le nombre de personnes. Donc, adoption en 2012. Conception avancée, construction, et là vous l'avez sur la gauche, c'est une photo que j'ai prise quand j'étais à la Cannes, donc c'était quelque chose de voir pour la première fois ce télescope, il fait à peu près 5 mètres de haut, il est absolument magnifique. Et donc là, on s'apprêtait à le lancer. Donc il y avait quand même une incertitude parce qu'on était censé lancer sur une fusée Soyouz depuis Kourou. Et donc, des petites contraintes géopolitiques récentes. On a dû basculer, heureusement, sur un autre lanceur de SpaceX, Falcon 9. Tout s'est très bien passé, donc en juillet. Et quelques mois plus tard, on a pu annoncer au monde que Euclid fonctionnait très bien, grâce à des images. Et voilà, donc c'est l'histoire de ces images que je vais vous raconter et de la science qui est associée. Alors, comme je vous disais, le télescope, tous ces télescopes sont des prototypes. Et c'est seulement quand vous êtes en astronomie, c'est rare de voir deux télescopes qui sont identiques. Mais en l'occurrence, Euclid vraiment est très très spécifiquement conçu du début à la fin pour répondre à des contraintes du but scientifique principal, qui est l'étude de la matière sombre. Et donc ça le fait à travers deux sondes. Une qui est la mesure de forme de galaxies, à peu près 2 milliards de galaxies qui sont très lointaines, jusqu'à à peu près 10 milliards d'années de distance, qui sont donc très petites sur le ciel, qui vont couvrir l'ordre d'une ou deux arcs-secondes. Donc il faut faire des mesures très très fines, très très bien étalonnées, et donc ça vous nécessite une conception optique extrêmement fine. Donc là vous avez l'industrie qui a joué un grand rôle, donc Thales Aerospace et particulièrement Airbus qui a fait la conception optique. Et quand je vois maintenant le résultat, après avoir passé 10 ans à suivre la conception, de voir le résultat et de voir ces images et surtout la performance du signal, c'est un peu dur, il faut avoir trempé dedans depuis un bout de temps pour voir, quand on regarde une image, on voit combien le signal est pur. Je ne plaisante pas, mais il y a vraiment quelque chose de vraiment unique. Et tout ça, c'est lié à une conception optique particulière de Euclid. Voilà. Donc ça a été passionnant de ce travail pendant 10 ans, d'être avec les ingénieurs, tant des agences du consortium que l'Agence spatiale européenne et de l'industrie. Alors donc, c'est un télescope qui voit large dans le sens où pour capturer 2 milliards de galaxies, il va falloir mesurer une grande zone du ciel. Aujourd'hui, on est dans la cosmologie dite de précision qui demande des grands échantillons. Donc des millions, des milliards de mesures. Et donc dans l'occurrence, Euclid va collecter au fil de ces 6 ans 50 millions de spectres à peu près en spectroscopie, il est équipé d'un spectrographe, et la mesure de forme d'à peu près 1,5 à 2 milliards de galaxies. Et donc pour ça, il faut des caméras panoramiques géantes. Et donc la clé, vraiment l'aspect totalement vraiment novateur d'Euclid en tant que télescope spatial, ce sont de grandes caméras panoramiques à bord. Et une en optique et une en infrarouge. Donc en optique, c'est ce qu'on appelle le VIS, pour les ondes visibles. C'est 620 mégapixels, ce qui est assez conséquent. Et en infrarouge, le NISP, de 64 mégapixels. Donc ça paraît moins, c'est quasiment 10% de la surface du nombre de pixels du VIS. Mais il faut savoir que c'est également la technologie des détecteurs infrarouges est beaucoup plus complexe que celle des détecteurs optiques dits CCD. Et donc c'est prouesse d'avoir construit cet instrument et de l'avoir dans l'espace. Donc ça donne des images absolument extraordinaires, parce que l'astronomie infrarouge, ce n'est pas une astronomie forcément facile, du sol en particulier. Pourquoi on le fait dans l'espace, comme je vous disais, c'est quand vous sortez de l'atmosphère, soudainement vous n'avez plus cette atmosphère brillante qui vous aveugle, même la nuit, et donc vous avez un facteur 300 de brillance du fond de ciel. Donc soudainement une image infrarouge qui vient d'Euclide n'a absolument plus rien à voir avec ce à quoi on peut être habitué avec des images infrarouges vues du sol. Voilà, et là vous avez sur la droite une échelle humaine qui vous donne une idée de la plateforme instrumentale une fois que vous avez mis les instruments, et donc vous avez les miroirs qui replient le faisceau et qui permettent d'amener la lumière sur les deux instruments. Il n'y a plus le son là ou pas? C'est bon? Voilà. Donc quelques chiffres rapides sur le Euclid. Donc c'est un miroir de 1,2 mètre de diamètre, ça peut paraître un peu petit, mais c'est ce qui est conditionné par le financement de l'ordre de 1 milliard d'euros pour construire ce télescope par rapport au lancement, les coûts d'opération, etc. Donc c'est 1,2 mètre, mais ça suffit par rapport aux besoins scientifiques de nouveau. Souvenez-vous, tout a été conçu vraiment précisément pour répondre à nos besoins. Donc vous avez un champ de vue de l'ordre de 0,5 degré carré. Et là, on a mis une jolie illustration avec la Lune. Donc c'est à peu près un peu plus de deux fois la taille de la pleine Lune, ce qui vous donne une idée, si vous tendez votre pouce sur le ciel, ça vous donne l'idée de la surface. Donc, c'est pas uniquement, vous pouvez dire, ah ouais, c'est pas si grand que ça, mais vous avez dans cette surface 620 millions de pixels, et ça veut dire que vous êtes capable de vraiment mesurer avec précision le signal qui arrive de l'univers. Donc, on a une très bonne résolution, des pixels très très fins, tant en optique qu'en infrarouge. Alors en infrarouge, comme je disais, le canal optique, lui, c'est pour la sonde qui va permettre de mesurer les formes de galaxies. Et l'instrument infrarouge, lui, c'est pour la mesure de flux. Donc je voulais juste mesurer combien de flux de lumière est émise par les petites galaxies dans les longueurs d'onde infrarouge. Donc pour ça, vous n'avez pas besoin de beaucoup de pixels. Et c'est pour ça qu'on a un réimageur en fait, à l'intérieur, qui fait que les pixels, la vue d'un pixel infrarouge sur le ciel est à peu près 10 fois celle d'un pixel optique. Vous le verrez dans les images. Voilà, donc on est localisé à Lagrange 2, c'est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, et donc on est en contact constant avec le spacecraft, donc on envoie les commandes et on reçoit les données. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et la durée de la mission, c'est 6 ans, mais on a appris que le lancement s'est tellement bien passé que la durée de vie du télescope va être de l'ordre de 12 ans. Donc je pense que Euclide, si vous suivez un peu l'astronomie, je pense que c'est le cas si vous êtes là ce soir, c'est un télescope dont on va encore parler pendant un certain nombre d'années. Voilà, donc je vous disais, au niveau de l'énergie sombre, il y a cette contrainte qui est liée au fait d'observer l'univers. Donc j'ai emprunté ce diagramme sur le site de l'ESA Euclide. Et ce que je voulais juste mentionner ici, c'est que quand vous observez un univers lointain, et que là, ce qui nous intéresse, c'est de regarder des galaxies qui sont de l'ordre entre 8 et 10 milliards d'années lumière de distance, c'est que vous attrapez tout sur le chemin. D'accord ? Et donc, vous avez une collecte de tout ce que vous avez collecté. C'est les étoiles de notre galaxie, même le milieu interstellaire de notre galaxie, les galaxies proches et les éléments plus lointains. Et donc, c'est vraiment voir un ensemble. C'est un télescope qui, est, à travers sa sonde principale, va être un relevé extrêmement riche, comme on en fait assez rarement, où vous allez attraper tout signal qu'il y a sur le ciel. Ce qui explique pourquoi vous avez 1600 scientifiques. Ce n'est pas 1600 scientifiques qui sont intéressés par l'énergie sombre, il y en a beaucoup moins que ça. La majorité sont intéressés par la physique des astres, par l'astrophysique. Donc, ils vont étudier les galaxies principalement, mais également les étoiles. Enfin, il y a toute une large gamme d'activités au sein de ce large groupe de scientifiques. Voilà, et donc, quand vous observez le ciel, donc ça, c'est une projection elliptique, c'est tout le ciel. Donc, c'est une sphère qui a été dépliée sur une surface plate, deux dimensions, de telle façon qu'on puisse voir l'ensemble du ciel. Donc là, on est sur Terre, depuis notre système solaire. Vous regardez autour de vous. Donc, on est dans une galaxie spirale. Donc, vous voyez le plan galactique qui s'étend de droite à gauche. Donc, on est sur le plan de la galaxie, d'accord ? Une galaxie, c'est des étoiles et du milieu des nuages moléculaires, donc du milieu interstellaire. Donc là, je l'ai représenté avec cette couleur marron. Ça vous indique que vous avez des poussières. Le problème des poussières, c'est que ça absorbe la lumière. Donc, faut éviter de regarder à travers des nuages de poussière parce que ça bloque la lumière ou ça la rougit. Donc, quand vous cherchez à observer l'univers extragalactique, hein, ces milliards de galaxies dont on a besoin, eh ben, il faut éviter de regarder dans ces zones polluées, littéralement. Donc, et il y a une autre pollution qui est le fait qu'on est dans un système planétaire et vous avez ce qu'on appelle la lumière zodiacale, qui est un plan de poussière qui dans lequel les planètes, jusqu'à Jupiter, je crois, baignent. Donc, même quand vous êtes dans l'espace, le ciel n'est jamais noir. Parce que comme c'est des poussières très diffuses, je crois que c'est lié au... C'est la théorie courante, c'est lié au choc entre astéroïdes, qui fait que ça perpétue un peu ce réservoir de poussière que l'on voit. Et la lumière du soleil diffuse dans ces poussières. Donc vous baignez littéralement dans un brouillard de lumière. Et ça, pour un télescope aussi sensible qu'Euclide, ça nous aveugle. Donc on doit éviter ça. Donc c'est ce que je représentais dans cette forme un peu tordue. C'est parce que je sais juste que le plan de l'écliptique de notre système solaire, il n'est pas aligné avec le plan de la galaxie. Donc quand vous faites ce type de projection, ça tord les choses dans tous les sens. Hein. Mais voilà, vous avez deux plans. Vous avez le plan de la galaxie, le plan du système solaire. La combinaison de ces deux choses fait que vous êtes bloqué, votre vue de l'espace extragalactique est bloquée. Qu'est-ce qui reste ? C'est ce qui est en noir sur l'image. Donc c'est ce qu'on appelle les calottes galactiques. Et donc c'est à travers ça qu'on va regarder. Et donc ce que j'ai mis en bleu, là, c'est le plan sur 6 ans. Littéralement, ça va nous prendre 6 ans, parce que Euclide, c'est comme un pinceau, et il a ce champ de vue qui est de la taille de la pleine Lune, et il doit passer une heure par chaque pointé pour aller sonder l'univers suffisamment profond pour capturer ces galaxies dont on a besoin. Et donc, une heure, eh ben, si vous faites la surface que vous voyez en bleu, qui est de l'ordre de 13 000 degrés carrés, c'est à peu près le tiers du ciel, multiplié par une heure, eh ben, vous obtenez 6 ans. Voilà, c'est la durée de la mission. Et pourquoi 6 ans? Parce que tout ça, c'est un compromis par rapport au financement qu'on avait. On ne pouvait pas faire 10 ans, parce que dans 10 ans, la science sera aussi moins pertinente, donc il ne faut pas attendre trop longtemps. Donc ça, tout est affaire de compromis. En jaune, vous voyez des zones sur lesquelles on va passer 40 fois plus de temps, on va faire des visites beaucoup plus fréquentes, et là, ça va vous donner des données extrêmement profondes sur toujours des grandes surfaces du ciel. Ce niveau, ça, c'est le ciel complet. Donc si vous le voyez là, c'est pas juste un pointé, c'est vraiment une vraie surface que vous voyez sur cet écran. Ça veut dire que c'est quand même une grande surface sur le ciel. Alors, le problème avec cette mission, c'est que ça va prendre du temps. C'est de la science très très compliquée. Le signal est compliqué. L'étalonnage du signal est extrêmement compliqué. On le voit au jour le jour. Là. Et donc, malgré ça, néanmoins, il y avait un souhait de l'ESA de pouvoir faire part au monde du fait qu'ils ont un nouveau télescope, il y a un nouveau télescope dans le ciel qui est fantastique, et donc on voulait pouvoir faire rêver le monde et montrer des belles images comme celles que vous avez derrière moi. Et quand on a regardé ce que ça prenait, on s'est dit, si vous regardez ce visuel que je montre là, c'est une échelle logarithmique de l'univers. Donc si vous regardez le système solaire, vous avez des choses assez grandes, on sait qu'une planète vue par Euclide, ça ne donne rien, parce qu'elles sont quand même très petites, ça ne couvrirait pas beaucoup de pixels. Si vous prenez l'univers lointain, celui qui est le but principal de la mission, vous n'aurez juste qu'un pan noir avec juste des petits points. Et donc ça, ce n'est pas très visuellement engageant. Donc ils voulaient quelque chose qui soit et joli, mais qui en plus fasse parler, illustre les capacités uniques du télescope à faire de la science originale. Hein, parce qu'on a des nouveaux instruments tels que jamais, qui n'ont jamais été présents à cette échelle dans le ciel. Et donc, on attrape tout sur le chemin. Et donc, il y a toujours un astrophysicien, une astrophysicienne qui aura des idées. Ah, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. On a fait appel à l'ensemble de la communauté scientifique Euclide. On leur a dit, soumettez une idée pour faire une science sympa, mais qui, à terme, permettra de produire une belle image. Voilà, c'était le... Et donc, il y avait 24 heures de temps de télescope qui était disponible pour faire ça. Et donc, on a libéré ces premières images en novembre dernier. Et donc, c'était les toutes premières images. Donc ça, c'était on a libéré des images à très haute qualité. La science a pris plus de temps à être produite, forcément, parce que on découvrait vraiment de quoi étaient faites ces images, ces données. Ça prend du temps de faire de la science. Hein. C'est compliqué en termes de maîtrise, et d'étalonnage, de comparaison, d'ancrage sur ce qui a été publié avant. Et on ne pouvait pas se louper, donc on a été très prudents. Néanmoins, les images, ça c'est un peu plus simple, elles ont été livrées en novembre 2023. Et donc, est-ce que ça a marché? Alors, je ne résiste pas de vous montrer ce plot que l'ESA m'a communiqué. Et donc là, on avait essentiellement, ça c'était après 10 jours, et là vous voyez, là, on avait à peu près touché 2 milliards de personnes. À terme, quelques semaines plus tard, je crois un mois plus tard, c'était monté après à 3 milliards. Donc ça, c'est un taux d'exposition. Donc, par exemple, sur la photo en haut à droite, dans les bus au Japon, vous avez des écrans. Donc là, il y avait l'écran, il y avait un des collègues qui nous envoyait cette photo. Donc c'est la IC342 que vous avez derrière moi, qui apparaît. Donc si vous êtes un passager du bus, eh ben, vous voyez l'image, ça vous donne une idée que des gens sont en train de faire l'astrophysique. Vous ne savez pas forcément que c'est Euclide, etc. Mais vous savez qu'il y a de l'astrophysique. Ça, ça compte N personnes qu'il y a dans le bus. Donc c'est comme ça qu'ils comptent au niveau des agences de statistiques. Voilà. Alors, néanmoins, voilà. Donc 3 milliards, c'était aussi dans les aéroports. Moi, j'ai adoré, c'était également sur le menu de l'excellent restaurant du centre scientifique de l'ESA à Madrid. Et donc là, ce qui était néanmoins notable par rapport à la réponse des médias, c'est que ce n'est pas seulement juste montrer des belles images, c'est qu'il y a eu une réelle reprise et une bonne... communication vis-à-vis de concepts plus complexes. En l'occurrence, on a été capable de partager la nature de la mission, ce que je suis en train de faire ce soir avec vous. Voilà, donc sur l'univers sombre. Ce n'est pas des concepts simples, et donc ça, c'était très satisfaisant vu du côté tant de la collaboration scientifique que de l'ESA. Alors, le problème, je commençais à vous parler de ce que j'ai fait, le problème, c'est que quand vous avez des images vraiment assez massives qui nous arrivent donc de transférer depuis l'espace, mais ça demande quand même beaucoup de travail parce que vous avez, là sur la gauche, ça c'est une image brute du canal visible. Vous avez 36 CCD, chacun lu par 4 sorties, donc vous avez 144 cadrans. Et donc, c'est difficile d'appréhender qu'il y a du signal astronomique là-dedans. Dans la petite boîte rouge, là on voit que c'est la tête de cheval. Donc ça, c'est le champ complet qui va donner l'image de la tête de cheval. Voilà à quoi ressemblent des données brutes reçues de l'espace. Ce que j'ai mis sur le zoom, c'est un de ces cadrans. Là, vous reconnaissez une fraction de la tête. Et là, vous voyez plein de petites rayures. Et ça, c'est vous subissez la météo spatiale, dans le sens où vous récupérez des tonnes de rayons cosmiques, protons, neutrons et particules à haute énergie, qui abreuvent les images. Et comme ces objets sont très faibles, comme je vous disais, ça prend une heure pour Euclide d'observer une zone du ciel, ça veut dire qu'on fait des pauses longues. C'est-à-dire que nous, on intègre la lumière. En gros, vous ouvrez l'obturateur, vous restez regardé très attentivement dans la même direction pendant 10 minutes, vous fermez l'obturateur, vous lisez votre image. Vous décalez le télescope, tac, etc., etc. Ce n'est pas juste clic-clac, c'est clic et puis clac. Voilà. Et donc, pendant ce temps-là, les rayons cosmiques continuent d'abreuver. Et donc, c'est ce que vous voyez sur l'image. Et donc, c'est difficile, c'est pas simple de gérer des données comme ça. Au niveau de l'infrarouge, c'est d'autres contraintes. Il est moins sensible aux rayons cosmiques. La réponse est également un peu plus uniforme au sein de la mosaïque, parce qu'il y a un pré-traitement à bord avant l'envoi des données vers la Terre. Mais néanmoins, vous regardez, pareil, sur un des 16 détecteurs, vous regardez la partie intéressante sur la tête de cheval. Là, vous voyez que des rayures. Et là, on a un problème de persistance sur les détecteurs électroniques qui gardent la mémoire de la pose précédente. Je vous l'ai dit, on fait également des spectres. Donc on alterne spectre et imagerie régulièrement entre chaque pose, entre chaque pointée sur le ciel. Et donc là, ce qu'on voit, c'est une mémoire de l'image précédente qui était un spectre. Et donc ça dure dans le temps. Donc toutes les images en imagerie subissent cette espèce de rayure constante. Bon, ce n'est pas très joli, donc il va falloir gérer ça. Et donc, comme disait Florence, j'ai passé beaucoup de temps à Hawaï et je voulais mettre ça parce que l'ESA m'a démarché il y a fin 2022 pour demander de l'aide sur ce programme très particulier qui sont les premières observations Euclides pour la science. C'est-à-dire qu'on voulait des grands objets qui ne sont pas, du tout la nature de ce que la science fondamentale d'Euclide est. Faire un grand objet qui remplit le champ de vue, comme vous voyez. Donc il vous faut des traitements du signal vraiment très spécifiques pour aboutir à ces buts. Tout le monde est surchargé de travail, donc il n'y avait pas moyen d'adapter vraiment ce qu'on avait prévu pour la mission principale qui est en cours d'activité actuelle. Donc il fallait faire quelque chose un peu parallèle. Ainsi est né l'effort sur ces fameuses premières observations. Donc moi je suis venu avec toute mon expertise développée au fil de 3 décennies sur le CFHT, parce que même si je suis rentré en France il y a 10 ans, je continue à travailler sur le CFH. Donc là, vous avez notre beau télescope à Hawaï. Megacam, qui est un instrument qui a été construit au CEA au début des années 2000, est toujours en activité, est vraiment un des précurseurs du VIS qu'on a sur Euclide. C'est la même expertise, les mêmes personnes, ce n'est pas que moi. Et donc, nous avons fait de nombreux relevés, etc. Et donc, en particulier, j'ai mené depuis 2000, ce programme de belles images avec le CFH. Et donc là, vous avez un exemple avec NGC 1365. Voilà, donc c'est toute cette expertise intégrée de gestion du signal, des données brutes, jusqu'à faire des belles images, qui a attiré l'attention de l'ESA, des collègues avec qui je travaillais. Et donc voilà, j'ai récupéré, on m'a mis en charge de ce programme. Et donc je vous narrais un peu ce que ça a pris. Donc là, ça prendrait une lecture complète à vous expliquer comment on traite des données, mais principalement la clé c'est comme ça que je le présente à mes étudiants, c'est il faut corriger les multiples signatures instrumentales. C'est-à-dire que vous observez l'univers avec un télescope et un instrument qui a son propre comportement, qui fait que le fait d'observer avec cet instrument biaise vos informations. L'information. On le voit sur ces images que je vous montrais, les rayons cosmiques par exemple, c'est lié au fait que vous observez avec un détecteur qui est sensible aux rayons cosmiques. Eux, ils n'ont rien à voir avec l'objet que vous observez dans le ciel. Donc tout ça, il va falloir petit à petit revenir sur chacun d'entre eux. Il y en a une longue, longue liste. L'une d'entre elles, par exemple, que je vous montre là, c'est la différence de sensibilité à travers les différentes longueurs d'onde que le détecteur est capable de saisir. Donc ça, il faut faire très, très attention. L'idée étant que quand vous avez une mosaïque de détecteurs, le but ultime, vous voyez sur les images derrière, moi, c'est que vous voyez plus de tout de variations de sensibilité entre les détecteurs. Tout a été uniformisé. Donc c'est ça la clé, c'est ça le but du jeu. C'est vraiment de rendre l'ensemble uniforme. Et donc, ça, vous le faites avec des méthodes numériques de traitement du signal. Il y a également le problème que quand vous avez un télescope et des optiques, de manière inhérente, vous allez avoir des effets de distorsion. Comme vous devez combiner des images prises à différentes zones, différents endroits sur le ciel, eh ben, il faut corriger ces distorsions, sinon les étoiles ne vont pas s'aligner les unes avec les autres. Donc voilà, j'ai utilisé pas la peine de réinventer la roue. Donc Emmanuel Bertin, notre collègue, qui a passé beaucoup d'années ici à l'IAP, a développé cette suite qui s'appelle Astromatique, que j'ai abondamment utilisée pour exploiter les premières données Euclide. Et donc il y avait ces fameux rayons cosmiques, je vous donnais l'exemple parce que c'est l'utilisation des outils modernes. C'est bien parce qu'il y a 5 ans, on se dit, bon, on verra bien ce qui se passera. En 5 ans, il y a un astrophysicien américain qui a pris des données du Hubble, qui a des détecteurs, des CCD qui sont très comparables à ceux de Euclide, et qui a développé un système d'intelligence artificielle en deep learning, d'apprentissage, etc. Il lui a appris exactement à quoi ressemblent des rayons cosmiques et comment les remplacer. C'est-à-dire, il recrée l'information à la place du rayon cosmique. Il s'appelle DeepSeer. Alors, cet outil-là, il m'a sauvé. Il est arrivé, il était vraiment providentiel et il était mis en disposition sur GitHub. Et donc, voilà, il m'a vraiment aidé il y a un an. Alors, maintenant, on est en train d'apprendre à faire mieux, notamment pour le canal infrarouge. Mais voilà, on s'adapte avec les méthodes de traitement du signal vraiment les plus récentes. Donc, comme je disais, on a des mosaïques. Donc, il faut en faire une image contiguë. Donc, ça, vous le faites en décalant légèrement votre champ de vue sur le ciel. Ensuite, vous combinez l'ensemble et vous obtenez digitalement donc une vue contiguë du ciel. Et ça, je le fais dans les 4 canaux. Et là, vous commencez à voir les choses qui prennent forme. Voilà, donc, en cours de route, après au printemps 2023, donc encore avant le lancement, il était clair qu'avec la pression montée de manière exponentielle sur l'ensemble des équipes qui étaient associées à la mission, il a paru que la production des données scientifiques pour les premières publications, les premiers articles qui devraient être publiés par Euclide, on avait pensé passer dans le pipeline principal, hein, celui qui sert pour tout traitement associé à la mission de 6 ans. Il s'est avéré que ces objets étant très particuliers, comme je disais, des sources étendues ou dans des zones de formation d'étoiles qui ne sont pas du tout dans la vocation de la mission, étaient trop complexes et ils ont préféré dire non, on va séparer. Donc l'ESA s'est de nouveau tourné vers moi et dit est-ce que le pipeline qui était initialement prévu pour faire juste les belles images, est-ce que ça peut faire de la science? Je dis mais oui, pas de problème, parce qu'initialement, ces pipelines, ça fait avant tout de la science. Et accessoirement, ça peut faire des belles images. Donc voilà, mais ça a quand même complexifié l'ensemble du processus et surtout, ça a mis la pression beaucoup bien plus importante, parce que seulement, il fallait nous assurer que le signal qui allait être exploité pour les premiers résultats scientifiques, dont je vous parlais tout à l'heure, c'était du solide. C'est compliqué dans ce qui était... Quand je regarde maintenant un an plus tard, pas un an plus tard, mais j'ai commencé ça à peu près il y a un an, c'est que ce qui l'a rendu vraiment très très compliqué, c'est les échelles de temps extrêmement réduites. Les premières images, j'avais juste 3 mois pour les faire. Et puis c'était le directeur général de l'ESA qui présentait ça devant un parterre de ministres à Séville à l'automne 2023. Donc il n'y avait pas droit à l'erreur, il fallait que ce soit prêt. Et pour la science, on était un peu plus laxe au niveau de quand on allait pouvoir publier les articles, mais néanmoins, ça mettait une pression assez considérable. Mais c'est passionnant, je dois vous dire, quand vous avez la chance de vous mettre la main sur des données aussi exotiques, nouvelles comme ça que Euclide, vous l'apprenez. Voilà, donc ça, c'est... Quand vous faites de la science, absolument, c'est plus une belle image qu'il vous faut. C'est des choses un peu plus complexes, avec des cartes de poids et des différentes variations de la manière dont vous allez empiler les images. Comment, si vous faites de la physique stellaire ou des physiques des galaxies, il y a toute une large gamme d'outils qui doivent être mis en fonction pour justement donner les produits nécessaires aux scientifiques. Et donc, parce que de nos jours, j'ai constaté, il n'y a plus beaucoup de gens qui regardent, plus beaucoup de collègues qui prennent le temps de regarder des images. Tout le monde s'attend à voir ce qu'on appelle des catalogues scientifiques. Donc vous créez un index, vous faites une extraction photométrique, comme on dit, vous extrayez des formes, des flux, des distances entre les objets, et vous mettez ça dans un fichier qui dit, voilà, à telle coordonnée sur le ciel, vous avez un objet qui a telle et telle propriété. Voilà. Donc en général, dans le passé, les astronomes allaient au télescope, prenaient leurs images, traitaient leurs images, ils faisaient leur propre catalogue. Maintenant, le volume est suffisamment trop grand, hein, pour que tout le monde le fasse. Et donc, on est arrivé dans des modes de service où vous avez des couches d'astronomes comme moi qui produisons des éléments et ensuite les astrophysiciens, astrophysiciennes, eux, peuvent prendre ça et puis en faire du sens. Mais voilà, donc produire des catalogues, c'est vraiment la base de ce type d'initiative. Et donc, qui dit production d'éléments qui ne sont pas revus par la suite par les astronomes, par les astrophysiciens, eh ben, et ça veut dire qu'il y a également tout un contrôle qualité. Donc là, il y avait un contrôle qualité, on ne parle pas de normes, mais bon, ça a été extrêmement délicat également. Une image, on va en parler, c'est joli ou c'est moche, quoi. Vous avez une idée, c'est assez subjectif. Mais quand vous parlez d'outils scientifiques avec une rigueur au niveau du traitement, là, il faut quand même faire attention parce que vous ne voulez pas publier des résultats faux. Donc là, la pression était assez intéressante pour faire ça. Et donc voilà, premier article scientifique qui initie ce dont je vous parlais à présent sur les 10 premiers articles scientifiques qui sont sortis de CLIDE. Ben, on m'a dit on ne peut pas sortir un article scientifique, c'est Emilie qui avait indiqué ça, on ne peut pas sortir les articles scientifiques s'il n'y a pas la recette qui est publiée. Hein, de toute façon, quelqu'un qui regarde quelque chose qu'on a fait sur une zone de formation d'étoiles, ah oui, mais le flux, comment il a été mesuré? Voilà, donc j'ai dû rapporter dans cet article l'ensemble des procédures. Donc si vous êtes vraiment passionné par ce que je vous raconte là, allez voir cet article, il est sur l'archive. Et vraiment, ça prend de A à Z comment on traite des données brutes d'un télescope spatial comme Euclide, tant pour l'optique que pour l'infrarouge, jusqu'à produire des catalogues et ces images. Voilà. Alors, je vous parlais des images en tant que quantité esthétique. Donc voilà, nous voilà de retour avec la tête de cheval. Donc c'est elle qui a fait le tour du monde. Hein. Quand on parle des 3 milliards, principalement, c'est cette image qui a porté. On est habitué à voir la tête de cheval plutôt en négatif, c'est-à-dire qu'on voit, les poussières. Ça, c'est une silhouette de poussière. Hein. C'est un nuage moléculaire relativement dense, riche en poussière. Quand vous l'observez dans l'optique, ça bloque la lumière d'arrière-plan. Donc on est habitué à avoir une silhouette. Soudainement, avec Euclide, on voit la poussière en réflexion, parce qu'on voit, suffisamment dans l'infrarouge. Donc vous commencez à la voir en 3 dimensions, littéralement. Et surtout, comme vous arrivez dans une taille de grains, les grains de poussière qui sont mélangés au gaz, qui ont une certaine taille, de l'ordre du micron, quand vous passez au delà de 2-3 microns, 2 microns pour la bande la plus rouge qu'on utilise pour ces images Euclide, eh ben vous arrivez à avoir cet effet de réflexion et une vue assez inédite. Voilà. Alors comment on a fait ça? Donc tout d'abord, il faut que vous décidiez d'une palette de couleurs. C'est-à-dire que comment vous allez prendre les différentes bandes photométriques. Euclide observe l'univers dans 4 différentes bandes, donc le domaine optique, comme je vous disais. Donc c'est ce que vous voyez là, entre 6000 et 10000 angstroms. Et ensuite, vous avez les bandes infrarouges, il y en a 3, Y, GH, comme on les appelle. Et donc j'avais le choix entre 4 bandes. Alors il s'avère que la bande J, elle est extrêmement contaminée par ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le problème de contamination des spectres. Donc ça, j'ai laissé tomber. Et je me suis concentré sur le Y et le H. Alors pourquoi ça aussi? C'est parce que si vous voulez avoir une grande diversité de couleurs, ça c'est vraiment clé hein, pour une image, pour créer un peu de peps, hein, un peu d'émotion dans l'image en termes de couleurs, il faut avoir la plus grande gamme en termes de longueur d'onde, parce que c'est ça qui va aller échantillonner différents phénomènes physiques qui se passent dans vos galaxies, dans vos étoiles, etc. Donc la bande visible et H, c'était vraiment absolument critique. Et donc, ben, comme le J était contaminé, je dis, bon, ben voilà, Y, ça va être la bande G. Donc, tout d'abord, c'est... Je continue. Non ? On continue ? OK. Je ne sais pas s'ils m'entendent d'ailleurs. Non. Je continue, OK. Donc néanmoins, ce qui est vraiment important de considérer, c'est quand vous avez ces bandes, ces différentes bandes photométriques de ces instruments, elles vont dans un ordre croissant de longueur d'onde, que vous voyez de gauche à droite, là. C'est de toute évidence critique de respecter cela par rapport au RGB, qui lui est pareil, c'est ces pixels que vous voyez qui sont projetés sur l'écran, sur vos écrans de smartphone. Voilà. Donc le RGB, c'est vraiment ce vers quoi on fait, j'ai oublié le terme en français, on va projeter les couleurs en équivalence. Donc c'est vraiment une interprétation forcément. Comme toute image astronomique, si vous prenez un signal qui a été pris à une longueur d'onde donnée et vous le remettez dans un autre canal qui permet une représentation pour l'œil humain sur un écran, et bien forcément il y a un élément d'information, d'interprétation. Et ça va être valide également au niveau de la remise en couleur. Et non, c'est ça dont je vais vous parler à présent. Néanmoins, ce à quoi je prête énormément attention, c'est que les phénomènes physiques que vous pouvez dériver sur les températures relatives d'étoiles, donc ça va jouer sur leur couleur, sur la physique d'évolution des galaxies, pareil, sur leur décalage spectral, vous jouez également sur les couleurs. Ça va, les galaxies très décalées par le rouge, elles vont être plus rouges. Donc ça, tout ça, ça doit être respecté et réel et doit transparaître dans les images. Donc il y a un réel ancrage, donc il y a une interprétation au niveau du rendu esthétique, mais fondamentalement, la composante information astrophysique est réelle. D'accord ? Elle n'est juste pas comme votre œil le percevrait. Voilà, ceci étant dit, voilà comment moi je travaille avec Giovanni. Giovanni Anselmi, c'est mon collègue depuis 24 ans sur les images CFHT. Donc forcément, quand l'ESA m'a demandé de faire des belles images avec Euclide, je dis, la condition, c'est que vous me laissez travailler avec Giovanni. Et donc, on continue à travailler ensemble, c'est un vrai plaisir. Et donc, Giovanni, c'est le maître de l'extraction du signal le plus faible en couleur, etc. Donc, ce qu'on a fait, là, en termes de collaboration, c'est que moi, je produis ma première version, que vous voyez en haut à gauche. Lui, il prend une autre version qui essaie d'explorer un peu plus le contenu en couleur. Et ensuite, on va trouver une espèce de compromis pour mieux représenter un peu ces différents éléments. Et comme je vous disais, surtout avec cet ancrage dans la réalité physique de ce qu'on est en train d'observer dans le ciel. Voilà. Et ensuite, comme c'est les toutes premières images, ça remonte à peu près à 11 mois. Maintenant, c'est en octobre. La palette de couleurs d'Euclide est unique. Il n'y a jamais eu un télescope qui avait les capacités d'observation d'Euclide. Donc les couleurs qu'on obtient de l'univers sont nouvelles. Parce que personne n'a encore observé avec cette combinaison qui va vers du RGB, comme je l'expliquais juste avant. Donc, comme c'était un peu nouveau, les tonalités étaient particulières, on voulait s'assurer que la palette de couleurs qui va être à présent adoptée, parce que l'ESA a ce souhait, c'est que les images soient familières à l'audience mondiale. C'est un peu comme quand vous voyez une image de Hubble ou du web que vous avez vu dans le hall d'entrée. Tout de suite, on dit, ah, ça c'est du web ou ça c'est Hubble. Hein, d'accord, il y a ça. Donc, c'est l'idée que j'avais de... Il fallait que je trouve la bonne balance à travers ce travail, de façon que ces images qu'on a sorties il y a quelques mois, celles qui vont sortir mi-octobre, il y en a des nouvelles qui arrivent, portent tous une signature unique, et que les gens, quand ils regardent, ils disent « ça, c'est Euclide ». Alors c'était ça mon boulot aussi à travers ce travail. Donc ce qu'on a fait en bas à gauche, là, c'est qu'on avait un petit panel de personnes de différentes sensibilités. On a dit, voilà, qu'est-ce que vous préférez? Ils disent, ouais, moi je préfère ceci, cela. Donc ça dépend, hein, les goûts et les couleurs. Mais c'était intéressant de voir quand il y avait une convergence sur celle qui marquait le plus. Et tout le monde était d'accord que celle que vous voyez à droite, c'était la bonne. Alors, donc avant d'aborder l'ensemble de ces images, où avons-nous observé? Donc Euclide tourne tout le temps son dos au soleil. Ça, c'est pour des contraintes en termes de stabilité thermique. Donc, vous ne pouvez pas l'incliner trop. Il y a quelques petits degrés de liberté, mais il doit toujours rester abrité du soleil. Ça, c'est dicté par les contraintes de la science sur l'énergie sombre. Hein. Vous voulez un télescope extrêmement stable pour faire vos mesures. Alors, mais néanmoins, il peut tourner sur son axe. Hein. Il fait dos au soleil, donc il peut tourner. Donc, ça vous permet quand même, ça vous donne une certaine liberté d'observer. Les objets... jolies, les belles images dont on parle ici. Forcément, ces objets qui sont souvent galactiques, donc rien ne nous interdisait, néanmoins, si la zone était visible, d'aller pointer dans le plan de la galaxie. On n'a pas les contraintes de la mission principale, donc on allait pointer dans des zones extrêmement polluées, je dirais, en termes d'étoiles, etc. Donc là, vous avez l'ensemble des cibles qui ont été observées. Et parmi celles-là, il y a les 10 images. Si vous allez sur le site de l'ESA, vous allez trouver toutes ces images qu'on va regarder à présent. Donc, la zone de formation d'étoiles Messier 78. De nouveau, c'était une bonne idée de Tancrède de venir mettre les images. L'écran a une résolution donnée, mais ce que vous pourriez faire après, hein, après les questions, c'est aller mettre votre nez sur ces images. À la résolution à laquelle on a Euclide, Vous pourriez en fait prendre chacune de ces images pour essentiellement en faire sur le mur complet. Je vais vous illustrer ça avec l'écran aussi bien que possible. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pixels. Donc, il y a moyen de montrer des choses. Donc là, ce que vous voyez, c'est une zone de formation d'étoiles. Un peu ce que vous expliquez pour la tête de cheval, c'est que vous voyez l'effet trois dimensions. Donc, vous voyez ici, en particulier, donc vous avez une zone qui a collapsé sous son propre poids. Il y a peut-être eu un choc de supernova qui a créé le collapse il y a quelques millions d'années. C'est une zone très, très jeune ici. Et puis, vous avez un taux de conversion du gaz vers le nombre d'étoiles, vers produire des étoiles qui est de l'ordre de 10%. Mais c'est suffisant pour créer donc un petit cluster d'étoiles, un petit noyau d'étoiles. Donc, en général, les étoiles dans les zones de formation d'étoiles ne sont pas forcément... Ça peut être 10 étoiles, ça peut être 100 étoiles, ça peut être 10 000 étoiles. Ça dépend de la taille, ça dépend. C'est un phénomène très, très complexe. Mais le processus est toujours le même. C'est-à-dire qu'un nuage s'effondre, vous formez des étoiles. Ces étoiles, ensuite, commencent à rayonner par des particules rapides. Et donc, c'est ce qu'on appelle des vents stellaires qui repoussent alors le gaz environnement. Et c'est exactement ce que vous voyez ici. Vous voyez une cavité qui est en train de se créer. Là, l'image donne bien cette sensation de trois dimensions. Et ça, qui est vraiment unique avec Euclide, c'est que comme maintenant on voit la poussière en réflexion, ça donne vraiment cette impression. Vous voyez en bas de l'image, là où il y a une zone de formation d'étoiles, mais là on sent que les nouvelles étoiles sont vraiment noyées encore dans le gaz. On voit juste en train de s'ouvrir. De nouveau, allez sur le site de l'ESA, vous verrez vraiment en détail toutes ces images qui sont un peu limitées par la projection. Donc, le petit jeu auquel je vais jouer, là, maintenant, c'est sur l'ensemble des 10 images qu'on va observer, et puis on va parler un peu des résultats scientifiques. Et j'ai dessiné une boîte. Alors, je ne sais pas, Jean, l'écran, c'est un 4K ou c'est un 2K? Je crois que c'est un 2K.
Non, c'est du HD. Ouais,
c'est OK. Donc, c'est encore... Ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est le quart de la boîte jaune. Mais imaginons que c'est un écran 4K. Peut-être que vous avez un écran 4K chez vous. Donc, vous avez une TV 4K Ultra HD. Il faudrait, par image Euclide, il faut 75... écran à 4K HD pour représenter toute l'information de chaque image Euclide, d'accord ? Et donc là, ce que je vous mets, c'est que pour chacune des images, on passera, je vous montrerai le cadre général, je vous parle de l'image, et ensuite je vous montre, voilà, la petite zone en question, et là, ça vous permet vraiment d'apprécier l'élément de résolution. Il y a 75 fois ça dans l'image originale. Donc là, que voyez-vous sur cette image, ben, vous voyez, vous commencez à voir le nuage moléculaire, ben, on voit des structures, il est structuré par les vents, on voit des structures lissées, vous voyez des étoiles dans l'arrière-plan qui sont rouges, ben, ça c'est normal parce qu'elles sont en arrière du nuage moléculaire, donc la lumière traverse tout ce gaz, cet environnement très riche, et donc la lumière, qui dit poussière, dit rougissement. Et donc c'est pour ça que vous les voyez rouges. Ouais, elles sont très très faibles. Hein. Et ça, par contre, l'étoile qu'on voit ici, Elle est très, très brillante, très blanche. Ça vous indique qu'elle est en avant-plan. Donc, vous pouvez commencer à imaginer, à voir, en regardant ces images, vous pouvez commencer à décoder la nature trois dimensions de l'objet. Alors, nous voici sur la tête de cheval. Donc, la tête de cheval, donc, c'est une zone de formation d'étoiles. On le voit en bas à gauche. Donc, ça, c'est... Vous avez, alors, juste au niveau des couleurs, vous voyez qu'il y a une couleur rose. D'accord, donc rose, donc ça c'est là, il y a une composante qui est liée, c'est plutôt rouge, d'accord, il y a rouge-bleu qui va donner du... Donc ça c'est là, et là vous avez également le ciel, entre guillemets, il est bleu. Alors quand vous regardez cette nébuleuse dans les longueurs d'onde optiques, ce que vous voyez, vous avez du gaz hydrogène ambiant qui est ionisé par une étoile qui est juste au-dessus, là. J'ai oublié son nom, mais c'est une étoile très, très bleue, très, très chaude, qui émet beaucoup de rayons ultraviolets. Donc qui pousse les choses autour, qui a un vent stellaire très intense, et c'est ce vent stellaire qu'on voit, en fait, vous voyez presque des estries verticales. Ça, c'est littéralement une pluie de matériaux qui est en train de graver l'ensemble du matériau, et on voit que sur la partie la plus dense en bas, il y a une forme d'affaissement, voilà. Donc il y a cette structure qui est en train de subir cette pression. Et la tête de cheval, elle ne sera plus là dans quelques millions d'années, parce que c'est une forme relativement... qui ne dure pas longtemps, vieux mon français. Et ce que vous voyez, donc c'est de nouveau cet aspect trois dimensions. Et donc là, maintenant, on va zoomer sur la zone en bas à droite, qui est un peu verte. Et donc là, je vous attirais votre attention sur un point qui était un fil conducteur pour notre histoire en novembre dernier sur la mise en valeur de ces images pour la mission Euclide. Et le fil conducteur, c'était les fameuses galaxies de champ, ces fameuses galaxies lointaines jusqu'à 10 milliards d'années, qu'on va observer, qui sont toutes petites hein, sur le ciel. Mais pas si petites que ça, parce qu'avec Euclide, on arrive à voir les détails. Et donc toutes ces petites choses, si c'est des points, c'est une étoile. Si ce n'est pas des points, c'est des galaxies. Et donc tout ça, c'est des galaxies tout autour. Et pourquoi on les voit? C'est parce que le complexe Orion, hein, quand vous regardez la tête de cheval est dans la constellation d'Orion, et vous voyez que si vous avez la chance de voir c'est pas le cas dans Paris, mais si vous voyez la Voie lactée, vous constatez que la constellation d'Orion est légèrement décalée par rapport au plan de la galaxie. C'est-à-dire que quand vous regardez dans la direction de la constellation d'Orion, vous regardez légèrement en dessous de là où il y a beaucoup trop de matériaux qui bloquent votre vue, et donc vous voyez l'espace extragalactique. Et c'est ce que Euclide voit ici. Donc vous voyez juste avec beaucoup d'avant-plan, il y a du gaz ionisé en avant-plan, il y a des nébuleuses en avant-plan, il y a plein de choses, mais vous voyez néanmoins également toutes ces galaxies. Article scientifique associé, donc Eduardo Martin était le program scientist, le PI de cette demande avec son équipe, et donc la motivation scientifique qui se cachait derrière, qui devait s'appuyer sur quelque chose vraiment d'unique à Euclide, c'était la recherche de planètes errantes. Et donc là, dans le contexte de toute la théorie, l'évolution de la formation des étoiles. Et donc c'est les planètes errantes, c'est les choses qui sont jusqu'à 4 fois la masse de Jupiter, donc c'est vraiment des très grosses planètes. Mais quand vous avez une formation d'étoiles et les étoiles sont encore, la zone de formation est encore relativement jeune, ces objets qui sont relativement de faible masse sont encore relativement chauds à travers ce processus d'effondrement auquel ils ont hein, des grosses planètes, par exemple Jupiter, c'est une espèce d'étoiles avortées, n'ont pas assez de masse pour démarrer des réactions thermonucléaires en leur cœur, hein, donc ça c'est des étoiles qui ne sont pas des étoiles, c'est des grosses planètes, et donc il en est de même pour des étoiles errantes, pour les planètes errantes, qui ont et donc on commence à en trouver beaucoup, parce qu'on commence à vraiment maîtriser l'instrumentation. Euclide est un cas idéal de télescope qui permet de aller chercher ces planètes errantes, parce qu'on arrive avec le canal infrarouge à les détecter justement à la bonne température qu'elles auraient quelques millions d'années après leur formation. Voilà. Et donc il y a une véritable récolte. Alors, cette équipe est très heureuse, parce que typiquement ces objets, ce sont ces zones exactes que nous évitons par la suite du relevé. Donc là, ils ont une mine d'or à sonder pour les années à venir. Alors ensuite, on sort notre galaxie. Donc il y avait une ligne narrative que nous voulions pour ces premières observations. C'était d'avoir un fil conducteur sur ces étoiles, sur ces galaxies lointaines, mais à travers la visite d'objets de plus en plus lointains. Donc là, on était dans notre galaxie, les zones de formation d'étoiles. Là, on est toujours dans notre galaxie, mais dans la périphérie. Donc, dans la périphérie de notre galaxie, vous avez des amas globulaires, qui sont des condensations d'étoiles, de l'ordre de 100 000 étoiles, qui tiennent ensemble par leur interaction, interaction gravitationnelle respective. Et donc, elles ont des très, très longues durées de vie, hein, sont quasiment contemporaines de la formation des galaxies. Et donc là, par exemple, nous, vous avez typiquement on va encore en parler des amas globulaires, hein, c'est un fil conducteur également, on en a à peu près une trentaine ou quarantaine dans le halo de notre galaxie. Donc là, on a pointé NGC 6397, et cet amas globulaire, on le voit, vous voyez que le ciel tout autour est relativement riche en étoiles, c'est parce que lui, il est relativement près du plan galactique. Hein, souvenez-vous de la carte que je vous montrais tout à l'heure. Et donc ça rendait un peu plus complexe, parce que là, on va essayer d'étudier un amas globulaire qui est lui-même contre la galaxie, qui est très très riche en étoiles. Donc ça complexifie un peu la mesure. Mais d'abord, avant de parler science, on va regarder le petit zoom. Donc là, de nouveau 1,5% de l'image initiale. Et là, de nouveau, fil conducteur, regardez, à travers, malgré le fait qu'on est en train de regarder dans une zone relativement proche du plan de la galaxie, de notre galaxie, vous êtes capable de toujours discerner toutes ces petites galaxies en arrière-plan, là, n'est que c'est un peu flou, un peu, tant que c'est pas rond, c'est une galaxie. Voilà. Et donc, David et Massari étaient notre PI pour ce programme, et l'idée, c'était de cartographier l'ensemble des étoiles identifiées comme appartenant à cet amas globulaire, et de voir d'éventuelles déformations de la forme. Essentiellement, on pensait qu'il va être rond, mais comme ces amas globulaires tournent autour de notre galaxie, et donc régulièrement traversent le plan de la galaxie, ils vont être affectés par des effets de marée, d'interaction. Alors les galaxies, surtout du vide, hein, mais vous allez avoir des effets de persistance du fait de la mémoire du chemin parcouru. Et donc, il y a des étoiles qui vont être perdues. Donc, à terme, on sait que les amas globulaires perdent des étoiles. Donc, l'idée, là, c'était de voir, par rapport à ce qu'on sait de cet amas, et on en observera d'autres, parce que ça, ce type d'amas, on les trouve un peu partout dans le ciel, donc on aura d'autres chances pendant le relevé d'en voir plus, c'était de voir des effets de distorsion. Et effectivement, on a mesuré une légère élongation de la forme du halo globulaire. On reste dans le groupe local. Donc notre galaxie fait partie de ce qu'on appelle le groupe local, qui est une centaine de galaxies dominées par Andromède et la Voie lactée, notre galaxie. Et vous avez après la galaxie du triangle, M33, qui est un peu plus petite, c'est une spirale. Puis après, vous commencez à tomber très, très vite dans l'hiérarchie de taille et de poids et de densité d'étoiles des galaxies. Et notamment, vous avez des galaxies irrégulières. Donc là, vous voyez, on va parler de galaxies irrégulières par la suite, des naines. Là, vous avez une petite galaxie irrégulière qui est, là, attendez, je regarderai mes chiffres, 1,8 million d'années-lumière. D'accord ? Donc on est quand même relativement toujours très proche. Et là, vous êtes capable, avec Euclide, de résoudre, de voir individuellement chacune des étoiles de cette galaxie. Donc voilà, maintenant on zoome. 1,4% de la surface. Là, vous voyez des zones de formation d'étoiles. Et donc là, amène vos attentions sur le fait que maintenant, on voit les zones de formation d'étoiles, elles sont pourpres, on va dire. Alors, si vous regardez pourpre, c'est du rouge plus du bleu. Donc, il n'y a pas de signature verte. Et ça, la raison, c'est parce que vous avez du gaz ionisé, donc de l'hydrogène ionisé qui émet dans le rouge. Et ça, on le capture dans le canal Vise. D'accord, le canal optique de Euclide que lui, moi, je mets dans le canal bleu des images RGB. Et vous avez des poussières. Je vous ai expliqué le rôle des poussières qui réfléchissent la lumière. Lui qui est dans le canal rouge. Donc vous avez des poussières qui réfléchissent de la lumière, rouge, du gaz ionisé qui est mis dans le bleu. Et bien, ça vous donne du pourpre. C'est ça que vous commencez à pouvoir décoder comme ça le contenu de ces images. Ensuite, vous avez des étoiles qui sont plus ou moins bleues, plus ou moins jaunes. Et ça dénote la température et donc la masse, la taille, le taux d'évolution, ce genre de choses. Donc il y avait toute une série de galaxies, on en a observé 6 dans ce programme. Donc l'autre, c'était IC342, dont on parlait tout à l'heure. Ce qu'on ne voit pas là avec ce contraste, c'est que la galaxie s'étend jusqu'au bord. On a des bras spiraux, là, il y a eu une interaction de cette galaxie, et il y a des bouts de bras spiraux qui s'étendent jusqu'au bord. Et ce qui fait, je n'étais pas trop sûr de mon coup en novembre dernier, mais c'est vrai que, en une seule pose, c'est l'image la plus précise jamais prise d'une galaxie en astronomie. C'est-à-dire que vous avez de l'information dans chaque pixel. C'est ça qui est remarquable. On va le voir de nouveau. Alors, juste avant d'avancer, là, regardez, vous avez une structure en bras spiraux. Et dans les bras spiraux, vous avez des zones un peu pourpres. Donc ça fait écho à ce que je vous ai montré dans l'univers local. Mais là, vous le voyez, dans une galaxie qui est à 11 millions d'années-lumière. Et donc là, vous voyez une très belle dynamique. Et alors, vous avez beaucoup d'étoiles tout autour, notamment ces deux très grosses étoiles de part et d'autre. Et ça, c'est lié au fait que cette galaxie IC342, on l'observe littéralement à travers le plan de notre galaxie. Longtemps, elle a été appelée la galaxie cachée, mais ça, c'était sans compter sur Euclide. Donc, on peut vraiment voir très bien à travers certaines zones qui ne sont pas trop denses en étoiles et en milieu interstellaire. OK. Et donc, vous zoomez maintenant sur une des zones. Et alors ça me fascine, cette image, quand je l'ai produite la première fois. Parce que vous voyez du grain. Je ne sais pas si vous devez le percevoir. Oui, je me retourne. Okay. Vous voyez le grain. Il y a du grain. Et ça, c'est... moi qui fais de la... J'ai connu le film argentique. Donc, quand vous faites du grain, c'est marrant, cette impression. Là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a suffisamment de résolution pour que les étoiles forme ce grain. Donc vous voyez, encore à cette distance de 11 millions d'années-lumière, donc comme je disais, Euclide est capable, grâce à sa précision vraiment extraordinaire des optiques, de voir des détails dans cette galaxie. Et imaginez-vous, je reviens un peu en arrière quand même, imaginez-vous la quantité d'informations présente dans une telle image. C'est juste colossal. Et ensuite, on a pointé NGC 6744, qui est à 31 millions d'années-lumière. On voit déjà qu'elle est un peu plus petite sur le champ. C'est toujours le même champ unique d'Euclide que je vous montre. Donc, plus l'objet est lointain, plus il va commencer à être petit, si c'est une entité donnée, comme une galaxie. Par contre, ce que vous voyez là, c'est vous voyez des galaxies naines autour, des galaxies également en interaction. Il y a celle-ci, on voit qu'elle a une forme assez tordue. Là, vous voyez qu'il y a une galaxie qui est associé à un bras spiral qui est complètement tordu. Donc là, vous voyez, vraiment, il y a une vie, une évolution des galaxies. On voit que le disque, d'ailleurs, il n'est pas du tout centré. Donc voilà, il y a plein de choses à faire et à dire sur une telle galaxie. Maintenant, on va zoomer. Et là, j'ai pris l'ensemble du cœur de la galaxie jusqu'au bord. Et donc, vous retrouvez un peu cette notion de grain de l'image. Mais ce qui m'avait marqué, c'est que même quand vous êtes relativement proche du cœur du noyau, hein, du bulbe de la galaxie, comme on dit, vous voyez encore des galaxies en arrière-plan. Alors, ça, c'est une galaxie spirale, ça, c'est notre galaxie. Donc, c'est vraiment, ça vous donne une notion que les galaxies, ça reste quand même beaucoup de vide. C'est très, très diffus comme entité. Alors, Leslie Hunt était notre PI pour ce programme. Donc là, ils avaient 6 galaxies, ils en ont fait un recensement de différentes populations d'étoiles qui permettent de regarder un peu les phénomènes d'évolution des galaxies à cette échelle. On parle aussi d'un télescope Euclide, il ne va pas tout faire tout seul avec ce qu'il a collecté. On vit vraiment dans une ère de multi-longueur d'onde, c'est-à-dire que vous allez compléter ces observations par Euclide avec des observations faites dans le millimétrique, par exemple avec ALMA au Chili, ou radio, enfin que sais-je. Il y a vraiment, on a joué. Donc les articles scientifiques sont sortis avec Euclide, déjà mettent un grand pied dans la synergie qui existe entre ce télescope vraiment unique et vraiment l'ensemble du reste de l'arsenal auquel on a accès en tant qu'astrophysicien. Donc on va pousser encore un peu plus loin maintenant. Donc c'est toujours le petit jeu, hein, on regarde. Je vous pointe toujours cette histoire de galaxies d'arrière-plan, on va y arriver. Hein. Mais entre-temps, on passe sur quels sont ces avant-plans. Donc le prochain avant-plan, c'est l'AMA, le groupe de galaxies Dorado. Et là, il est à 62 millions d'années-lumière. Et là, vous voyez, vous avez deux grosses galaxies elliptiques. Elles n'ont pas des formes très, très excitantes, mais néanmoins, on les voit, leur enveloppe extérieure est très perturbée. Et donc, elles sont clairement, il y a eu des phénomènes d'interaction. Ça, c'est la signature très, très standard d'interaction entre galaxies. De nouveau, vous voyez ici, ça c'est une galaxie spirale, mais qui ressemble plutôt à une espèce de rectangle. Donc, pareil, quand vous regardez en détail, de nouveau, vous trouverez toutes ces images sur le site de l'ESA en haute résolution, vous verrez ça, pour commencer à voir que vous avez une spirale dans une espèce de grand nuage diffus, qui est assez fascinant. Et puis après, vous avez, si vous regardez en haut, vous avez des galaxies, plutôt des naines, ou voire une galaxie spirale vue par la tranche. Voilà, donc ça c'est 1,5% de l'image pour Dorado. Et là, vous voyez que même à cette distance, on voit que Euclide est capable de percevoir les étoiles les plus brillantes. On n'arrive plus à résoudre les étoiles individuelles, mais on arrive à voir vraiment, on arrive quand même toujours à voir les géantes bleues, etc., les géantes rouges. Voilà. Et puis, vous voyez aussi que... Est-ce qu'on le voit sur l'écran? Ouais, attendez, je vais vous montrer ça. C'est ma collègue Ariane Manson qui mentionnait ça. C'est une espèce de petit collier d'étoiles en lien, on ne sait pas trop quel est le phénomène physique qui fait ça, mais c'est très joli. Donc, souvenez-vous, cet écran-là, c'est juste on pourrait faire 4 fois mieux que ça. Alors, la science qui a motivé ce programme, c'était la science d'évolution des galaxies dans un groupe, AMA ou groupe, et par la méthode de traçage par amas globulaires. Donc, comme je disais, les galaxies possèdent un train d'amas globulaires qui gravitent, hein, autour. Et quand les galaxies interagissent entre elles, les amas globulaires ont tendance à être expulsés aussi, comme des étoiles. Et donc là, les astrophysiciens ont découvert, il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, que c'était un traceur extrêmement, avec beaucoup de potentiel, pour aller regarder sur l'histoire d'évolution des galaxies. Au niveau de ces grosses structures qu'on observe ici. Donc là, la force d'Euclide, c'est qu'un amas globulaire, même à 62 millions d'années-lumière, ça reste un objet qui n'est pas résolu. Certes, on ne voit plus les étoiles comme on le voyait de manière individuelle dans notre galaxie, mais ce n'est plus une étoile. Si vous prenez un télescope sol et vous regardez cet amas de ce groupe Dorado, vous ne ferez pas la différence entre un amas globulaire et une étoile, parce que tout est flouté par l'atmosphère. Avec Euclide, vous aurez encore à voir à cette distance le fait que l'amas globulaire, on voit que c'est quelque chose qui est un peu plus étendu qu'une étoile. Et donc, ils ont pu comme ça faire des cartographies et de retracer un peu l'histoire de l'évolution des galaxies entre elles. Voilà. Et ensuite, vous regardez la densité des amas globulaires en fonction de la type de galaxie, les naines, les grandes galaxies, etc. On fait toutes sortes de statistiques, on s'amuse bien. Ce qui nous amène à l'amas de galaxies de Persée. Donc Persée, c'était donc j'avais la chance et l'honneur d'être également le PI de cette demande. Et donc quand on a proposé le programme à l'ESA, on a dit si vous faites cette image, on aura une superbe image de référence pour montrer des galaxies. Sur le problème, c'est que Euclide, on va observer des milliards de galaxies, mais elles sont toutes petites, quoi. Alors là, on a une image qui aurait ce potentiel. Donc ça, c'était pour le pep talk sur faire une belle image de galaxies. Mais au-delà de ça, il y a une science extrêmement intéressante à mener sur l'ensemble. Et donc là, ce que vous voyez, c'est un amas de galaxies extrêmement riche qui est juste à la bonne distance, à 240 millions d'années-lumière. Donc là, vous voyez qu'on a suffisamment de recul pour voir vraiment beaucoup, beaucoup de galaxies d'un coup. Donc je vois mon étudiant de Maïdi qui est présente, qui a fait tout le catalogage de ces galaxies. Donc vous en avez à peu près 200 qui sont très brillantes. Et puis après, vous avez à peu près 1000 naines que vous ne voyez pas pour l'instant, que je vais vous montrer par la suite. Donc là, vous avez une grande collection de galaxies. Vous voyez plein de petits points. Et ça, c'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup de contamination, entre guillemets. Vous le verrez sur le poster derrière moi plus tard. C'est que comme Persée est très proche du plan de la galaxie, on le voit vraiment très... Donc vous êtes extrêmement contaminé par les étoiles. Ça a été un problème parce que, de fait, on avait des problèmes de contamination diverses et variées. Voilà, donc si vous zoomez sur un amas de galaxies à 240 millions d'années-lumière, si vous regardez à pleine résolution les images d'Euclide, voilà, vous êtes capable d'aller voir en détail les galaxies. Et vous voyez tous les détails de morphologie. On voit même la granularité. Ça, c'est un point, c'est un indice d'appartenance, c'est ce que Maïli a utilisé pendant son travail. C'est si vous observez une granularité des galaxies à cette distance sur les images, ça veut dire qu'elle est suffisamment proche pour vous trouver des variations de densité d'étoiles dans la galaxie. Sauf que vous ne verriez pas si la galaxie était plus lointaine, parce que tout devient mélangé. Voilà, donc ça, c'est un des paramètres qu'on exploite pour cette science. Et donc, on n'a pas fait un article. Dans notre camp, on en a fait trois. Et on était très ambitieux. Donc Francine a regardé, elle, la population de galaxies naines. On a doublé le nombre de galaxies connues. C'était pas juste passer de 2 à 4, on est passé de 600 à 1200. Et donc, ce qui en fait aujourd'hui le plus bel échantillon de galaxies naines connues dans le bestiaire astrophysique. Donc là, la force d'Euclide, c'était d'être capable d'aller vraiment voir des objets extrêmement faibles, extrêmement diffus. Hein, cette fameuse science des sources diffuses dont parlait Florence tout à l'heure, c'est vraiment la force de mon traitement de données là, qui donne la puissance à ces données. Voilà, donc on a fait ça. Et donc, une fois que vous avez un recensement complet de toutes les galaxies, entre les galaxies brillantes et les naines, et vous commencez à faire des études systématiques en termes de taille, de luminosité. Et ce qu'on se construit là, c'est la fonction de luminosité d'un amas de galaxies, ou la fonction de masse. Et donc là, ça vous donne des statistiques sur l'évolution des amas de galaxies. La pente, la fameuse pente, c'est ce que vous voyez là, ici, là, c'est vraiment ça qui nous fascinait, qui nous a vraiment captivé dans notre analyse scientifique, c'est de voir si effectivement il y a un nivellement de la pente ou pas. Parce que ça a des contraintes ensuite sur la manière dont vous faites des simulations cosmologiques. Il y a une signature de la cosmologie sur la manière dont les amas de galaxies évoluent. D'accord ? Et donc, il y a toujours cette question des galaxies naines, est-ce qu'elles manquent ou elles ne manquent pas? Et donc, pour nous, d'aller faire un sondage comme jamais, vraiment inédit, de cet amas de galaxies qui est vraiment au bon croisement en termes de distance, c'était vraiment important. Voilà. Donc ça, c'était l'article numéro 2. Et ensuite, Mathias Kluge et Nina Hatch ont mené une étude avec leur équipe sur la lumière intra-cluster. Donc, vous êtes dans un amas de galaxies. Je vous ai parlé, il y a des interactions qui font qu'il y a des amas globulaires qui se retrouvent expulsés, mais il y a également beaucoup d'étoiles elles-mêmes. On le voit, les bras spiraux qui sont arrachés, etc. Tout ce matériau ensuite s'éparpille. Et donc, donnez-leur quelques millions, milliards d'années, et bien tout ça se distribue de manière relativement uniforme, et ça vous donne une espèce d'enveloppe lumineuse que vous voyez. Ok, ça se voit, elle est beaucoup plus grande que ce que vous voyez à l'écran, en fait, qui coupe un peu les brillances. Et donc, on a découvert dans notre image que vous avez de la lumière intra-amas, vous avez des galaxies partout dans le champ. Et quand vous comptez la quantité de lumière qu'il y a dans cet espace intra-amas, donc entre les galaxies, vous arrivez quasiment au tiers de la masse de l'amas se retrouve complètement dispersée comme ça. Et ça indique que depuis la formation de cet amas qui est une structure ancestrale, mais qui a des dizaines de milliards d'années d'évolution, eh ben vous perdez beaucoup d'éléments comme ça. Et donc la lumière, c'est ce qu'on appelle la lumière intra-amas, et c'est devenu, un peu comme pour les amas globulaires, un très bon traceur d'informations. Et en l'occurrence, on a noté qu'il corrélait plutôt bien avec la distribution de matière noire qu'on voit avec différentes méthodes. Et donc il y a tout un pan d'astrophysique là qui est vraiment en train de s'ouvrir, et Euclide va être particulièrement talentueux pour explorer ce domaine. Donc voilà, on est très heureux d'avoir eu cet article qui met ça en avant. Alors on va pousser plus loin, maintenant on est à 1 milliard d'années-lumière, et donc là vous avez sur le coin droit l'amas Hubble 2764, et en bas une étoile brillante. Alors pour vous dire pourquoi ce cadrage bizarre, on s'est trompé, il y a eu une erreur, il y a eu une typo de l'équipe qui a donné les coordonnées, et on s'est retrouvé avec ce pointé un peu bizarre. Alors c'est tant mieux, parce que du coup j'ai fait des études très très intéressantes avec cette étoile brillante sur les caractéristiques techniques du télescope. Et leur idée, c'était d'aller voir la physique des galaxies, puis notamment, est-ce qu'on pourrait voir un signal d'optique gravitationnelle. Alors, cet amas, il est un peu proche, hein, 1 milliard, c'est pas très lointain. Mais quand vous regardez à pleine résolution, à 1,4% de nouveau de l'image, vous voyez que vous pouvez vraiment décoder très très bien la morphologie relative des galaxies. Et là, je vous parlais, maintenant vous êtes très familier avec les histoires d'interaction, etc. Et là, je regarde cette image, et c'est absolument fascinant, c'est que vous avez des signes, tout le monde interagit, quoi. Quand je regarde la lumière intra-cluster, hein, celle dont je parlais à l'instant, elle est partout. Donc vraiment, on a un brassage complet qui a pris des milliards d'années, mais le brassage est réel, et Euclide a cette capacité unique d'aller nous montrer vraiment des choses extrêmement faibles. Regardez là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, non, là, c'est dommage, il coupe un peu la brillance, mais on voit des streams. Allez voir l'image sur le site de l'ESA, vous ne serez pas déçus, de nouveau. 2,7, on a presque fini, 2,7 milliards d'années, Hubble 2390, donc celui-là, on a bien pointé. Et là, vous voyez principalement, voilà à quoi va ressembler le relevé principal d'Euclide. Parce que principalement, la mission sur l'énergie sombre, ce qu'elle va regarder, c'est des zones de ciel exactement comme celle-là. C'est-à-dire que vous avez du noir, et vous avez quelques étoiles de notre galaxie qui sont en avant-plan. Et puis, voilà, et donc quand vous zoomez, là, en l'occurrence, on a cet amas de galaxies qui est en avant-plan, je vais revenir sur l'optique gravitationnelle, mais principalement, la nature même des images Euclide, principalement, sur le tiers du ciel qu'on va couvrir, ça ressemblera à ce qu'on voit dans les petits coins, qui sont juste des petits points, et c'est avec ça qu'on va faire notre statistique sur l'énergie sombre, parce que ça sonde, c'est pas le thème de ma présentation, mais ça sonde des grandes structures de l'univers qui sont projetées sur notre ligne de visée. Bref, revenons sur 2390. Donc là, ce que vous avez une grande galaxie CD centrale, une elliptique, très massive, qui est le centre de masse, toute évidence, puisque vous voyez des effets d'optique gravitationnelle extrêmement forts. C'est ce qu'on appelle le régime fort de l'anti-âge gravitationnel. Et donc ça, on l'a fait parce que c'était une bonne illustration du type de science que Euclide va faire. Ce n'est pas du tout le type de signal qu'on va observer. Mais bon, c'était toujours sympa de montrer que on fait ce genre de choses. Voilà. Et donc, c'est ce qu'ils ont publié. Il y a deux articles. Alors, c'est l'équipe qui a fait deux articles. Un sur l'anti-âge gravitationnel. Donc, ils ont pu recréer. C'est important d'étalonner, de voir que le résultat que vous sortez de votre nouveau télescope est compatible avec ce qui existe dans la littérature, avec les différentes études par la communauté précédente. Et il y avait également quelque chose qui est des grands sujets porteurs d'Euclide, c'est ce qu'on appelle la drop-out sign. C'est-à-dire que, comme vous avez quatre bandes, vous pouvez jouer au jeu que quand un objet est décalé, quand il y a un plus grand décalage spectral, eh ben vous allez perdre son flux dans les bandes les plus bleues. D'accord ? Donc, si vous voyez un objet qui est très rouge dans les images d'Euclide, ça veut dire qu'il est extrêmement décalé par le rouge. C'est une manière très simple de vous dire ça. Et donc, ils ont regardé. La grande force d'Euclide, c'est d'avoir un très grand champ de vue. Et donc, d'un seul coup, vous êtes capable de sonder un grand volume de l'univers. Et là, juste avec un pointé les deux pointés sur ces deux amas d'Abel, donc eux, les amas, ça ne les intéressait pas, hein, ce qu'ils regardaient, c'était autour, enfin, au-delà. Ils ont trouvé 30 objets qui, typiquement, étaient exotiques. C'est-à-dire, les gens ont dit, oh, on a de la chance, on a trouvé un objet à redshift de 6 ou 8. Là, on parle vraiment de l'univers primordial, hein, quand vous êtes à ces décalages spectraux. Et là, on en trouve des dizaines. Juste en un pointé, deux pointés. Et là, Euclide, on va faire 23 000 pointés. Donc vous imaginez, donc c'est vraiment c'est quelque chose à retenir, c'est que Euclid, ça va être une machine à collecter l'information. Et nouveau, regardez d'ici 15 jours le press release qui sortira de l'ESA, j'ai fait un nouveau travail, qui essaie d'illustrer un peu cette notion de taille de ce que fait Euclid. Voilà, donc si vous voulez vraiment en savoir plus, vous avez tous les articles qui ont été publiés, qui sont disponibles depuis le site de l'ESA, vous avez les images. Et donc là-dessus, je conclus et je vous remercie de votre attention. Merci.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-Charles. Je crois que toutes ces images, vous allez en rêver cette nuit, sûrement. Hein, enfin, parce que voilà, c'était magnifique. Hein. Une petite chose avant que tout le monde s'en aille, enfin pas tout le monde, mais deux choses même. J'ai oublié d'abord de dire que Jean-Charles Cuyandre travaille à l'IRFU au CEA Saclay. Deuxième chose, le dimanche 13 octobre, c'est la fête de la science. L'IAP sera ouvert de 10h à 18h ou 18h30 avec un certain nombre d'activités, de conférences, voilà, je ne peux pas vous en dire plus en détail. Nous allons aussi recevoir 55 classes pendant la semaine de la fête de la science, c'est-à-dire environ 1200 enfants. Et donc le dimanche 13 octobre, vous êtes évidemment les bienvenus avec vos enfants, vos petits-enfants, vos grands-mères, etc. Tout le monde est bienvenu. Voilà. J'avais oublié de le dire au début, donc je le dis maintenant, puisque j'ai le micro. Donc maintenant, on va prendre des questions. Quelques questions d'abord dans la salle. Qui a des questions ?
Bonjour, merci pour cette conférence. J'ai deux questions. La première, c'est sur une image comme celle qui est au-dessus de vous, comment est-ce qu'on arrive à distinguer les images de l'avant et de l'arrière-plan ? Comment savoir qu'un des points qu'on voit est une étoile proche ou une galaxie lointaine ?
Alors, pour les étoiles, c'est donc le seule chose qui ressemble à une étoile qui est ponctuelle, ce serait un quasar. Donc là, il y a à part prendre un spectre, ce qu'on pourrait avoir avec Euclide, on ne peut pas faire la différence entre un quasar et une étoile, ou même le cœur très ponctuel d'une galaxie lointaine, avec un AGN, ce genre de choses. Mais, donc là, au niveau ça, mais globalement, on sait par exemple sur l'amas de Persée, on regarde, on voit une structure ponctuelle. Ensuite, vous avez la taille, on sait qu'il y a des échelles physiques qui sont respectées dans l'ensemble de l'univers, et donc on s'attendait, comme Ailey a fait son catalogue sur cet amas de Persée, on savait à quoi s'attendait. On a passé beaucoup de temps à scruter l'écran, on dit, ouais, celle-là, elle est un peu petite ou un peu grande, c'est peut-être une galaxie arrière-plan. On ne pouvait pas savoir, mais dans ce cas-là, on fait appel à ce que j'appelle la granularité. Donc, dans certains cas, vous avez cet aspect sur les galaxies proches, vous allez voir de la résolution. C'est pour ça que je vous parlais de la galaxie C352. Vous êtes capable de décoder une granularité. Et pareil, si vous voyez un petit train d'amas globulaire qui gravite autour de ça, ça, c'est un autre élément de granularité qui vous permet de jauger. Ensuite, vous avez les couleurs. Avec les couleurs, vous avez également des éléments d'information. Puis après, au-delà, il y a tout ce qu'on appelle la technique des décalages spectrophotométriques. Vous êtes capable de faire. Vous essayez de coller des modèles d'évolution des galaxies à la distribution d'énergie que vous avez à travers vos différentes bandes. Ce n'est pas ultra précis, mais c'est quand même très, très puissant. Et donc, on était capable, donc c'est notre collègue Mikol qui a fait ce travail pour percer, on est capable de faire une espèce de cartographie 3D. Juste avec Euclide, on a eu quelques compléments de données sol. Donc voilà, c'est juste, on joue le jeu, on a une bonne connaissance de ce qu'on appelle la distribution d'énergie des galaxies en fonction de la longueur d'onde. Et donc si on colle ça dans les différents points d'observation qu'on a, on est capable d'estimer la distance.
Une autre question ?
Merci. Merci d'abord pour toutes ces explications, mais si j'ai bien compris, le but, c'est la matière sombre. Qu'est-ce qu'on a, en quoi Euclide a déjà éclairé ce sujet ?
On commence juste, donc il faudra attendre le premier release. Les premiers articles scientifiques sortiront d'ici un an et trois quarts à peu près. C'est pas simple, parce qu'il faut vraiment un échantillon riche, bien étalonné. Et on le voit, même si le télescope a été construit de manière merveilleuse, et où on a des conditions d'environnement qui sont stables, etc., ça reste un signal très, très ténu. Sinon, quelqu'un l'aurait déjà fait. Et c'est pour ça que c'était le défi pour l'Europe. Les Américains qui pensent que c'est leur énergie, mais ils l'ont découverte et ils sont vraiment extrêmement proactifs sur leur sondage. Donc pour la petite histoire, donc en 98, découverte de ça, donc ils ont quand même le prix Nobel pour cette découverte remarquable. Et donc au début des années 2000, il y a un groupe de personnes qui s'est dit bon, il faut qu'on comprenne mieux, on va mieux contraindre ça. Et donc ainsi est né ce fameux notion de niveau d'analyse. Un, c'était de mieux raffiner la nature de l'énergie sombre. Est-ce que c'est bien ça qu'on voit? Oui, alors donc on l'a fait avec des supernovas, avec une mesure de distance, etc. C'est comme ça qu'ils l'avaient découverte. Et ensuite, on dit, si on veut une meilleure précision sur les paramètres cosmologiques et sur la fameuse constance cosmologique qui définit certains éléments de nature, de la matière noire, de l'énergie sombre, il va falloir de plus en plus de précision. Mais plus vous voulez de précision, plus il vous faut un échantillon riche. Et donc, on a commencé à faire des relevés de plus en plus grands. Et aussi, à ce niveau-là, ils savaient aussi que ce qui est vraiment clé, et ça, c'est l'élément porteur que Euclide va apporter, c'est qu'on peut voir, on va avoir suffisamment de précision dans les mesures pour voir une évolution potentielle temporelle du comportement d'énergie sombre à travers le temps. Parce qu'on est en train de... Je vous ai montré, je vous parle à peu près de on va jusqu'à 10 milliards d'années à distance la plus lointaine, mais on est capable de sonder tout ce qu'il y a entre eux. Donc là, le souhait, c'est de pouvoir définitivement dire, grâce à Euclide, l'énergie sombre, c'est ou bien une constante, ou bien ce n'est pas une constante, mais combien elle a évolué à travers le temps. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps, littéralement. Et vous avez, on a des gens très, très talentueux qui se penchent sur le problème, et ça dicte l'ensemble. Donc moi, j'ai joint l'équipe Euclide il y a 10 ans, et ce qu'on a toujours vu, c'est... Il y avait toujours des souhaits des gens qui veulent faire de l'évolution des galaxies ou les quasars ou que sais-je. Mais quand il y avait un choix technique dur qui devait être fait pour... Parce que c'est l'idée qu'on avait d'Euclide il y a 10 ans, ce n'est pas celle qui a été lancée. Il y a eu des évolutions, etc. Et c'est toujours l'énergie sombre qui dictait le choix. Si on fait comme ça, il y a plus de chances qu'on se facilite la tâche par la suite. Et malgré ça, on se retrouve, ça fait un an qu'on a des données, on voit que c'est compliqué. Donc, ce n'est pas pour diminuer la valeur des premiers articles qu'on a faits. C'est vrai que c'était relativement... Quand vous avez l'opportunité d'avoir un instrument que personne n'a eu dans les mains avant, où que vous regardiez, vous allez voir des choses nouvelles. Donc, c'était ça l'idée de ces premières observations. C'est pour ça qu'on a fait des choses... Bon, on va regarder percer, paf, voilà, on a des résultats. C'est vraiment ce qu'on appelle les low-hanging fruits. Il n'y a qu'à prendre le truc. On a des fruits bien, bien mûrs qui nous tombent dans les mains. Là, par contre, l'énergie sombre, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. C'est pour ça que je demande votre patience. Et vraiment, le résultat ultime, ça au bout de 6 ans, plus 2 ans d'analyse, donc il y a encore 8 ans. Voilà.
Merci pour votre présentation. Je voulais vous demander, vous nous avez montré donc, la carte avec tout le ciel, et il y avait des régions où Euclide va passer plus de temps à analyser. Je voulais savoir pourquoi ces régions spécifiquement.
C'était... attendez, est-ce que ça va marcher comme ça? Je suis rapide, hein? Allez, hop. Où est-ce que je l'ai mise? Là, voilà. Donc ça, ce qu'on appelle le relevé profond Euclide. Donc c'est 40 fois, on va, au fil des 6 ans, on va revenir régulièrement sur ces zones. Et l'idée, c'est... comme je disais juste à l'instant, c'est tout est dicté dans la mission Euclide par l'étude de l'énergie sombre. Donc on ne le fait pas... Déjà, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, il y a le wedding cake. Quand vous prenez ces gâteaux de machin, vous avez des différents...
La pièce montée.
La pièce montée, oui. Vous avez un grand plateau plat, et puis après vous avez un gâteau un peu plus petit, puis un peu plus petit, puis plus petit. Et puis si vous tenez une tranche, vous voyez que la surface, est, pour un angle donné, vous avez plus de volume. Enfin bref. Je me perds en gastronomie. Le truc, c'est que quand vous faites de l'astrophysique, ou bien vous faites une zone très large, mais vous ne pouvez pas aller très profond, ou bien vous prenez une zone très piquée et vous allez très profond, ce qu'on appelle du deep pencil, et ça coûte très cher de faire l'un ou l'autre. Et donc, il y a une espèce de compromis à accepter sur comment vous allez, quel signal, après quel signal vous voulez acquérir. Donc, Euclide, clairement, la mission principale, c'est de faire grand et relativement profond. On fait les deux ensemble. Les champs profonds existent parce que quand vous faites une telle diversité de capture du signal sur l'ensemble du ciel qui est très non, c'est hétérogène, hein, on le voit avec tous les éléments dont que je vous ai décrits, il vous faut des champs de référence. Et donc ces champs profonds, on va aller largement au-delà de la capacité du relevé principal d'observer les galaxies. Et toute cette même population de galaxies qu'on va observer dans la zone bleue, là, on va observer le même type de population dans les zones jaunes, mais sauf qu'on les aura à un rapport sur la survie bien plus élevé. Donc on va être capable d'étalonner des effets systématiques, etc., qui eux vont retrouver leur chemin dans l'analyse de matière sombre. Donc voilà, c'est terrible à dire, ça fait hurler les astrophysiciens quand on dit que les champs profonds d'Euclide, qui pourtant sont une mine d'or, ça va être en termes d'astrophysique, c'est juste un champ de calibration pour le relever. Voilà. Voilà. Mais alors, ceci étant dit, c'est pour ceux qui connaissent le Sloan. Le Sloan, c'est le SDSS, etc. Ils ont lancé ça dans l'année 92. Ils ont fait un télescope qui était sur Apache Point, qui n'est pas forcément le meilleur site d'observation, mais ils ont pris un télescope de 2 mètres et ils ont fait un grand relevé d'imagerie et de spectroscopie. Et ils se sont dit, voilà, c'était le début, c'est l'avènement des nouveaux types de détecteurs. Et on va faire un relevé. On a même oublié quel était le but scientifique principal. Mais depuis, c'est devenu la référence. C'est-à-dire quand vous regardez, donc chaque télescope a des métriques pour quantifier sa productivité scientifique, le nombre d'articles, le nombre de citations, etc. Et donc tout le monde se targue de dire, ouh là, mon télescope, il est aussi bien qu'un suite d'un 8 mètres, etc. Donc c'est assez rigolo ce qui se passe. Ce qu'ils ne montrent jamais, c'est que le Sloan, si on le mettait dans les statistiques, mais même le Hubble et tous ces autres télescopes absolument fabuleux, ils seraient très bas. Le fait, c'est qu'ils ont fait un relevé du ciel en imagerie et spectroscopie qui est tellement riche que tout le monde l'utilise. Il y a eu des résultats absolument fabuleux, notamment au niveau de l'énergie sombre, etc. Euclide aspire à être ça. C'est-à-dire que ce qu'on fait là, certes, on va étudier l'énergie sombre, mais en même temps, on capture un signal et on va s'assurer que l'aspect, ce qu'on appelle le côté héritage, va être garanti. Et donc, ma prédiction, c'est que Euclide, ça va être un télescope dont les données vont être encore exploitées d'ici 30-40 ans, parce que vous créez vraiment une base de données du ciel quasi complet. Voilà, c'est mon pep talk sur Euclide.
Alors, il y a beaucoup de questions intéressantes aussi sur le chat. Je ne vais pas pouvoir les donner toutes, parce que, voilà, il se fait tard. Donc, si tu peux peut-être raccourcir tes réponses. Alors, dans une autre conférence, il était question de création d'images scientifiques et d'accessibilité pour les personnes qui ne voient pas certaines couleurs. Avez-vous déjà fait ce genre d'exercice ?
Alors, oui, parce que pour les cartes du ciel, par exemple, on doit convier beaucoup d'informations. Donc, j'étais en charge de tous les cartes du ciel pour la mission. Et donc, j'ai essayé de prêter autant attention que possible à cela. Mais pour les images du ciel, par contre, ça, c'est la physique qui décide. Donc oui. Là, je ne peux pas changer l'univers, moi.
Oui, mais après, malgré tout, on choisit des tables de couleurs. Alors,
Non. Parce que le RGB, comme oui. J'expliquais tout à l'heure, il est conditionné par le télescope. Mm-hmm. Donc la réponse est non, on ne peut pas.
On ne peut pas.
Bon. Pour les images.
Est-ce qu'il existe des images non retouchées ? Les images brutes, mais après...
C'est les images brutes que je montrais tout à l'heure. Après, elles sont difficilement regardables.
On a quand même intérêt à les retoucher, oui. Pourquoi est-ce que Euclide ne... Alors ça, tu l'as dit, en fait, mais répète-le. Pourquoi est-ce que Euclide ne prend pas de photos des planètes de notre système solaire ?
Trop petite.
Voilà, c'est ce que tu as déjà dit.
Et trop brillante aussi.
C'est ce que tu as déjà dit tout à l'heure. Ensuite, j'essaye de... Alors, est-ce que le problème de la formation de glace sur le miroir a été résolu ?
Quelqu'un
qui est au courant des petites misères de Euclide.
Oui, alors ce qui s'est passé, donc vous lancez de la Floride en plein été. Donc, moi, j'y étais pas, hein, mais tous ceux qui étaient allés, ils bourraient de chaleur, quoi. C'était c'était ultra humide. Et donc, vous avez, même si SpaceX a fait attention à ce que l'enceinte dans laquelle était prise Euclide, la coiffe, était relativement saine, il y a l'humidité qui est là-dedans. Donc vous passez de, je sais pas, 30 plus degrés au sol en Floride, en quelques secondes vous êtes hors atmosphère et là tout gèle. Donc si vous auriez les photos absolument fascinantes, moi j'étais au CNES ce jour-là, je ne revenais pas, on avait un écran absolument colossal, et je dis tiens c'est marrant, c'est différent des vidéos habituelles de SpaceX, et pour la première fois ils avaient une caméra haute définition embarquée, donc Euclide, c'était impressionnant, donc on regarde ça, on est tous, pourvu que rien ne se passe, et soudainement on voit des résidus blancs, et c'était la glace qui est en train de s'échapper. Et on s'est dit, d'accord, il y a là, si on la voit en extérieur, ça veut dire qu'il y en a en intérieur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques mois, on a vu la sensibilité, on est capable de mesurer ça avec toutes nos données, on a vu la sensibilité, c'est-à-dire la capacité du télescope à capturer un nombre de photons en un temps donné, diminuer. Donc on s'est amusé à réchauffer des endroits sans trop savoir ce qu'on faisait apparemment. Et donc ça a aggravé la situation. Et donc on a réfléchi un peu plus et puis on a fait juste la chose qu'il fallait et depuis c'est parfait. On a vraiment retrouvé une sensibilité nominale comme on l'attendait et c'est stable. Donc voilà, mission, problème résolu.
Magnifique. Bon, et bien sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Jean-Charles.
Un plaisir.
Bonne soirée à tout le monde. Rendez-vous le mois prochain.